France, veux-tu encore de tes paysans ? C'est par ce cri de détresse que la FNSEA, le syndicat des agriculteurs, a appelé les agriculteurs à se mobiliser en début de semaine dernière. Alors ce matin, nous nous gardons bien de l'agri-bashing, bashing très en vogue, mais nous nous poserons tout de même cette question qui fâche, hein, se passer des pesticides, est-ce que c'est possible ? Et comment ? Et dans quel délai ? Alors ces questions, puisqu'en réalité il y en a plusieurs, nous nous les poserons avec vous, Marie-Hélène Robin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante-chercheuse en protection des cultures, chercheuse associée à l'INRA, et vous enseignez donc à l'école d'ingénieurs de Purpan, à l'école où vous m'avez dit qu'en réalité il n'y avait que 20% d'élèves qui se destinaient à être agriculteurs, c'est ça ?
En tout cas, il y a à peu près 20% d'élèves qui sont issus du monde agricole.
Voilà. Donc finalement, Purpan format a bien d'autres métiers. Alors le sujet est explosif. Hein. Il y a eu cette consultation citoyenne mise en place par le gouvernement. C'était en début septembre. Elle s'est clôturée tout début du mois d'octobre. C'était une consultation sur les distances d'épandage des pesticides entre les champs et les habitations. Elle a un peu rajouté d'huile sur le feu s'il en fallait. Alors nous, on va essayer de garder la tête froide, si vous voulez bien, et prendre le sujet de la façon la plus didactique possible et se demander d'abord, quand on parle de pesticides, en réalité, Marie-Hélène Robin, on parle de quoi ?
Alors, quand on parle de pesticides, bon, il y a plusieurs termes hein, qui peuvent décrire ce que c'est qu'un pesticide. On parle aussi de produits phytosanitaires. Dans tous les cas, un pesticide, c'est une préparation qui est destinée à protéger les végétaux contre tout organisme nuisible. Alors déjà, on peut aussi se poser la question, qu'est-ce qu'un organisme nuisible ? Nous, on appelle ça aussi un bioagresseur. C'est un organisme qui peut engendrer des dommages sur une culture, c'est-à-dire des pertes de récolte, soit en termes quantitatifs de diminution de rendement ou en termes qualitatifs. Alors on va retrouver des agents pathogènes comme des champignons, des bactéries, des virus, ou des ravageurs comme les insectes, les limaces ou des adventices.
Vous avez parlé de protéger, ça veut dire qu'un engrais n'est pas un pesticide ?
Un engrais, c'est un intrant, donc ça va servir à apporter au sol des minéraux dont il a besoin. Alors, parmi les pesticides, il y a deux origines possibles des pesticides, c'est quand même important de le souligner. Il y a une origine chimique de synthèse, puisque la chimie, elle est partout. Et il y a aussi des pesticides d'origine biologique, naturelle. Ça peut être minéral ou ça peut être végétal. Bien sûr, par exemple, dans les pesticides d'origine minérale, on va retrouver le cuivre, le soufre. Et puis, dans les pesticides d'origine naturelle, végétale, on va retrouver des produits à base de plantes, par exemple, qui sont
donc plusieurs aujourd'hui. Plusieurs sortes de pesticides, on le comprend, qui répondent à un besoin, on l'a bien compris aussi, c'est de protéger contre ce que vous avez appelé les bio-agresseurs. Ces pesticides, on les utilise depuis quand ?
Alors, les pesticides, on pourrait dire d'origine naturelle, on les utilise depuis très longtemps, parce qu'il y a des textes qui révèlent déjà 1000 ans avant Jésus-Christ. Hein, ça avait été mentionné dans des œuvres d'Homère qu'on utilisait déjà du soufre, par exemple. Pline l'Ancien a aussi cité l'arsenic au 1er siècle. Et puis, plus proche de nous, on a utilisé des produits à base de plantes, comme la nicotine, par exemple, bien connue aujourd'hui. Alors, il y a un pas qui est franchi important au 19e siècle avec l'essor de la chimie minérale, et c'est là qu'on retrouve le début de l'utilisation de l'usage du cuivre qui se répand contre les maladies de la vigne et de la pomme de terre. Et l'essor véritable des pesticides, il est lié au développement de la chimie de synthèse à partir des années 30 à peu près. Et un des premiers pesticides qui a été utilisé, c'est le fameux DDT qui appartient à la famille des organochlorés, dont les propriétés ont été mises en évidence en 1939, ce qui nous ramène à des heures un peu sombres de l'histoire.
Et alors sont ces pesticides d'ordre chimique qui posent problème. On imagine que ceux qui sont naturels et ceux qui étaient utilisés par Homère ou Pline l'Ancien n'avaient pas de répercussions problématiques comme peuvent l'avoir aujourd'hui les pesticides.
Oh, c'est pas complètement vrai parce que vous avez des produits d'origine naturelle qui peuvent être très très dangereux. Hein. Vous prenez la nicotine, c'est très dangereux. Vous prenez l'arsenic, c'est très dangereux. Ouais. Donc c'est pas parce que le produit il est naturel qu'il est pas dangereux. Bien au contraire, il y a des produits d'origine biologique comme la rotenone qui ont été interdits parce que effectivement ils avaient une toxicité pour l'homme très importante. Donc c'est pas parce que c'est naturel que c'est pas dangereux.
D'accord,
bien au contraire.
C'est important de préciser. Alors il m'avait semblé que après guerre, on on devait faire face à un besoin beaucoup de récoltes à produire, et c'est ce qui expliquait en partie l'usage des pesticides. Est-ce que vous confirmez ça?
Oui, c'est vraiment important de remettre l'usage des pesticides dans un contexte historique. Faut vraiment jamais l'oublier. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, on a besoin d'augmenter les rendements, d'augmenter la productivité, donc la production par agriculteur. On fait face à une augmentation importante de la population, puis les gens, ils veulent aussi manger correctement, parce qu'il y a quand même eu des privations très importantes, et il faut absolument augmenter la production. Et puis ces usines, elles ont tourné pour fabriquer des insecticides, etc. pendant la guerre, et puis on se dit, tiens, on pourrait les utiliser dans le milieu agricole. Et c'est vraiment à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, à partir des années donc 45-50, qu'il va y avoir un usage vraiment important de ces pesticides.
Et alors, pourquoi est-ce qu'il marchait hier, donc l'usage de ces pesticides, ne fonctionne plus aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ces pesticides sont tellement pointés du doigt?
Ces pesticides, on les a utilisés finalement pendant 50 ans, et ils ont répondu à une demande liée à une intensification de l'agriculture, puisque ces pesticides, c'était des produits qui coûtaient pas cher, qui étaient efficaces, faciles d'emploi et qui tuaient pratiquement toutes les cibles qui étaient visées. Donc finalement, ces pesticides, ils ont répondu à un besoin
qui n'est plus le même.
Alors ce besoin, il est toujours le même, parce qu'on a toujours besoin de protéger les cultures. On pourra revenir là-dessus après. Mais à partir des années 70-80, on s'est rendu compte de la répercussion que pouvaient avoir ces pesticides en termes d'environnement et de santé. C'est vrai que pendant 20 ans, 30 ans, on s'est attaché à plutôt un aspect quantitatif de la production. L'important, c'était vraiment de produire. Et à partir du moment où l'assiette elle a commencé à être pleine, on a commencé à s'interroger sur la qualité de cette production. Quand vous avez l'assiette vide, vous cherchez surtout à la remplir.
Intéressant. Ouais.
Et donc, il a fallu. Il y a eu quelques livres importants comme le Printemps silencieux, par exemple, ou des livres vraiment qui ont commencé à pointer du doigt les risques de l'utilisation massive de ces pesticides. Et pendant 20, 30 ans, c'est vrai que on a répondu à une logique qui était une logique quantitative, parce qu'il fallait produire. Et c'est vrai que la France, elle est, grâce à cette production importante, elle est devenue autosuffisante, puis ensuite, elle est même devenue exportatrice.
Alors aujourd'hui, c'est le glyphosate qui concentre toutes les critiques. On a l'impression que c'est le nouvel ennemi numéro un. Avant, on parlait beaucoup de Roundup. C'est autre chose. C'est le nouveau nom du Roundup. Pourquoi le glyphosate?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un produit commercial, un pesticide, si on peut dire, il est composé d'une ou de plusieurs substances actives et d'adjuvants. Vous, exactement comme vous avez un médicament, quand vous prenez un Doliprane, vous avez du paracétamol, puis vous avez plein d'excipients à côté. Un produit, un pesticide, c'est exactement pareil. Donc, le Roundup, c'est le nom commercial du produit, et à l'intérieur, vous avez une substance active qui est le glyphosate. Alors, le glyphosate, il est homologué depuis les années 70, donc c'est vraiment une vieille matière active aujourd'hui, et c'est vraiment une molécule exemplaire d'efficacité. Pourquoi? Parce que c'est un herbicide total, c'est-à-dire que quand vous le mettez sur les plantes que vous cherchez à détruire, elles ne vont pas résister.
Et, ça tue tout sur son passage.
Ça tue tout sur son passage. Donc c'est efficace, c'est simple, c'est pas cher, et c'est quand même, ça a été l'herbicide le plus vendu au monde.
Donc, alors 8000 tonnes, je crois, en France par an de glyphosate, c'est des chiffres que j'ai trouvés.
Oui, voilà, c'était 9000 tonnes consommé en 2016, et faut quand même dire par contre que c'est un tiers des surfaces françaises. Il y a quand même deux tiers des parcelles en France qui ne reçoivent pas de Roundup. Donc c'est vrai que c'est l'herbicide le plus utilisé, mais pas sur 100% des surfaces.
Alors on va pas jouer au vrai ou au faux sur la dangerosité, mais il semble tout de même qu'elle soit en discussion. En mars 2015, l'OMS a classé le glyphosate comme cancérogène probable pour l'environnement. L'ANSES a déclaré en 2016, le glyphosate était une substance potentiellement cancérogène pour l'homme, et en même temps a jugé préoccupant l'effet cocktail entre les matières actives glyphosate et un de ses adjuvants. On sent qu'il y a tout de même un doute qui plane. S'il était dangereux, il serait interdit, non ?
Voilà, il faut savoir que les pesticides qui sont mis sur le marché au niveau de la communauté européenne, ils suivent un processus d'inscription comme les médicaments qui aboutit à ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché qui est accordée pour 10 ans et ensuite c'est renouvelable. Donc ça fait suite à une étude de la toxicité, de l'écotoxicité de ces produits par différentes commissions. Donc le glyphosate a été étudié comme les autres produits, il a été autorisé dans la communauté européenne. Ensuite, les différentes études. Bon, par exemple, pour la toxicité, on n'a pas les moyens de faire des études sur 10 ans, 15 ans, vous imaginez bien. Donc, ça veut dire que souvent, quand les produits sont autorisés, ben, y a des études qui peuvent se poursuivre après. Pour l'eau, c'est pareil. On n'a aucune idée des risques que ça peut avoir au niveau des adjuvants, puisque dans le milieu agricole, puisqu'on n'a jamais, avant que ces produits soient autorisés sur le marché, on les a jamais épandus à grande échelle. Mmh. Alors, il y a quand même quelque chose qui est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas d'accord au niveau scientifique, puisqu'il y a des résultats contradictoires, puisque les différentes études n'utilisent pas les mêmes analyses, etc. Ce qui est important, c'est de différencier le risque et le danger. Parce que potentiellement, le danger, il existe toujours. Et si on interdisait tout ce qui est dangereux, ben, on interdirait l'avion et la voiture.
Ouais.
Donc, ce qui est important, c'est de différencier le risque et le danger. Le risque, c'est le danger fois l'exposition. Mmh. Alors, le glyphosate en soi, c'est une molécule qui est dangereuse, comme tous les produits chimiques potentiellement. Mais est-ce qu'il est risqué? Ça, c'est une autre question.
C'est la question. Et alors, il faut malheureusement qu'on se dépêche parce que le temps file, mais c'est tellement intéressant. Protéger ces cultures, c'est quand même une nécessité pour l'agriculteur. Qu'est-ce qu'on fait si on ne doit rien mettre dessus? Parce qu'il ne faut pas qu'on pointe du doigt les agriculteurs, c'est vraiment pas le sujet ce matin. Protéger ces cultures, une nécessité, on fait comment alors?
Alors déjà, si on protégeait pas ces cultures, ce serait gravissime en termes de pertes, parce qu'il y a des cultures comme le riz ou la pomme de terre, il y a des études internationales qui ont montré qu'on pouvait perdre jusqu'à 80% de la récolte. Donc, ouais, il faut absolument protéger ces cultures, c'est incontournable. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut les protéger autrement, parce que de toute façon, au niveau sociétal, eh bien, il y a un certain nombre de pesticides qui vont disparaître.
Et autrement, c'est-à-dire comment?
Alors autrement, bah, c'est déjà au niveau agronomique, c'est-à-dire que à cause ou grâce aux parapluies chimiques, ben, on a oublié beaucoup l'agronomie. Et nous, aujourd'hui, dans une école d'agronomie, ben, on réenseigne, on réapprend les bases de l'agronomie, c'est-à-dire la rotation, hein, alterner des cultures différentes, la diversification des cultures dans les assolements, ajuster mieux les fertilisations, ajuster les dates de semis.
Et si c'était si simple, pourquoi est-ce qu'ils ne le feraient pas?
Parce que les pesticides, il faut pas se voiler la face, ça a été une solution quand même très facile. Et pendant de très nombreuses années, ben, on a un peu délaissé l'agronomie, puisque ben, les pesticides, ils permettaient d'avoir une réponse qui était facile et peu coûteuse. Bon, ça veut dire aussi que ces changements, comme par exemple revenir vers plus de désherbage mécanique, utiliser des variétés résistantes ou tolérantes, la mise en œuvre de ces adaptations n'est pas nécessairement facile pour les agriculteurs. Il faut l'admettre. Et ça requiert aussi un accompagnement de ces agriculteurs en termes de conseils, en termes d'organisation
des filières. Ça veut dire que la transition ne peut pas se faire en un claquement de doigts et c'est pour ça que là, on sent la détresse des agriculteurs.
Exactement. Les modifications, elles ne vont pas se faire du jour au lendemain. Il faut que bah, nous, la recherche, on travaille aussi, par exemple, sur les couverts végétaux. Bah, quels sont les meilleurs couverts pour les agriculteurs qui vont en détruire les plus facilement, etc. Il faut que le conseil suive aussi. Il faut peut-être se dire qu'il faudra des mesures d'incitation économique qui peuvent être indispensables, parce que si des agriculteurs s'engagent dans ces modifications pour limiter l'usage des pesticides, ben, il faudrait peut-être les aider aussi. Et en ce moment, on parle beaucoup de ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux, donc pour aider les agriculteurs qui s'engagent à protéger mieux l'environnement et les écosystèmes.
Un grand merci Marie-Hélène Robin. Malheureusement, nous devons terminer. Je pense que nous vous réinviterons parce que c'est très intéressant. Je rappelle que vous êtes enseignante chercheuse en protection des cultures, chercheuse associée à l'INRA, prof à l'école d'ingénieurs de Purpan. Vous nous avez aidé ce matin à voir un petit peu cette délicate problématique dans laquelle sont plongés les agriculteurs, se passer des pesticides, dans quel délai. Un grand merci à vous.
Merci à vous de m'avoir invité.